Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Est-ce que ça bouge dans le monde du cloud et du DevOps en ce mois de mars 2022? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, dans Actu DevOps, ton émission de veille Cloud DevOps mensuelle. Si tu ne connais pas l'émission, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir les petits outils que l'on t'a trouvés. Mais avant de commencer, il est temps pour moi de te demander de t'abonner et de nous laisser un commentaire. Si tu es sur YouTube, tu peux t'abonner et laisser un commentaire YouTube. Mais si tu es sur les plateformes de podcast, tu peux aussi t'abonner au podcast et nous laisser un petit commentaire, soit sur le podcast, parfois dans les applications de podcast, elles permettent de laisser un commentaire. Si le podcast te plaît, tu peux aussi nous soutenir sur Liberapay. Liberapay, c'est une plateforme de dons complètement libre et tu peux trouver la plateforme sur liberapay.com/céchaudier, mais le lien est en description. À ce propos, je vais vous lire un petit message de Nicolas. Nicolas, il nous a laissé un message et il nous avait fait un don via Acast l'an dernier et je m'en suis aperçu tout à l'heure en allant voir justement les dons de Acast, et il nous disait « Pour le petit café, merci beaucoup en tant que débutant DevOps, vos podcasts sont tout simplement des sources de savoir. Aujourd'hui, j'ai découvert le podcast et ça m'a permis d'orienter mes recherches sur le sujet DevOps et pas seulement. » Et il nous dit aussi « Au passage, je suis à la recherche d'un contrat d'alternance Bachelor 3 et j'aimerais bien pouvoir trouver un mentor qui pourrait me guider efficacement parce que j'ai envie d'apprendre. » Alors, je suis désolé d'avoir lu ton message que maintenant. J'espère que tu as trouvé une alternance pour ton Bachelor 3. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est de nous rejoindre sur le forum des compagnons. Si tu cherches un mentor, tu pourras peut-être en trouver un. En tout cas, il y a une section spéciale pour la recherche de mentor ou la recherche d'apprenti, on va dire, virtuelle sur le forum des compagnons. En tout cas, merci pour ton don et pour ton message. Ça fait plaisir. Et justement, j'ai avec moi, pour parler d'actu, Erwan. Bonsoir Erwan.
Bonsoir.
J'ai aussi Mathieu avec moi. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir à tous.
Et enfin René. Bonsoir René.
Bonsoir.
Et si tu ne nous connais pas, tu peux aller faire un tour sur nos épisodes de podcast respectifs puisqu'on a chacun une interview qui te permet de mieux nous connaître. Et justement... Avant de commencer, j'ai fait mon annonce. Donc, on va commencer dans le dur du dur. Alors, je crois qu'Erwan va nous parler d'un sujet particulier.
Oui, on va parler de l'avenir de Firefox. Alors, Firefox, vous connaissez tous, le browser open source supporté, enfin backé par la fondation Mozilla. Juste pour rappeler quelques chiffres. Déjà, en 2008, Firefox était à peu près 20% du marché. Et puis, il y avait tout un tas de pays émergents où c'était bien plus de 50%, voire 60% du marché. Mais aujourd'hui, 15 ans plus tard, c'est un tout autre délire. Parce que si on recoupe l'ensemble des devices, donc PC, mobile, tablette, etc., aujourd'hui, Firefox est à moins de 4%. De part de marché, donc ça a quand même sacrément chuté, et sur mobile c'est en dessous de 1% d'usage, donc c'est vraiment des très 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 peu, quand Chrome lui représente plus des deux tiers et je parle de Chrome et pas Chromium, représente plus de deux tiers des usages du marché. Alors, si on écoute Selena Dekelman, qui est la VP de Firefox, elle ne cache pas qu'il y a une baisse importante, mais elle se veut rassurante, et c'est normal, c'est la posture qu'elle doit avoir en tant que VP. Mais il y a plusieurs insiders qui ont parlé dans pas mal de médias différents, de façon anonyme en revanche, qui sont très inquiets et qui ne voient pas de rebond possible. Alors juste pour rappeler pourquoi Firefox est aussi important. Firefox c'est un espèce d'étendard de l'open source. Et c'est pas juste un joli logo. Firefox, donc comme je disais, c'est backé par la Fondation Mozilla, qui est une fondation à but non lucratif. Et du coup, son mode de fonctionnement, la philosophie et le fait que le projet soit entièrement open source, fait que la direction que le browser avait choisi, c'était de mettre en avant la sécurité du web, respecter justement tous les standards de protection de la vie privée, etc. Et c'est ce qui fait, enfin, respecter tout un tas de choses autour de la vie privée, c'est ce qui fait que ce sont devenus des standards et qui ont élevé le niveau des autres browsers. Donc l'apport de Firefox dans le monde des browsers est très important. En gros, s'il n'y a pas de Firefox, il y a quand même pas mal de features qu'on n'aurait jamais eu de façon globale. Et surtout, contrairement à tous les autres browsers maintenus par des sociétés privées, le Firefox ne collecte pas de données d'usage. Alors vous allez me dire, pourtant c'est un beau projet, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis 2020, la chute, elle est quand même de plus en plus forte, avec des choses qui généralement ne trompent pas, avec des vagues de licenciements importantes. Donc depuis 2020, j'ai vu qu'il y avait un peu plus de 250 postes qui ont été coupés. La Fondation Mozilla met pas mal en avant aussi le fait que la pandémie a beaucoup ralenti toute leur activité, etc. Mais bon, ça, c'est un peu comme pour tout le monde. Et surtout, et c'est là qu'on va en venir, le deal avec Google arrive bientôt à la fin. Alors vous allez me dire quoi, Firefox a un deal avec Google? Alors pour ceux qui ne le savent pas, oui, et c'est un deal qui est vraiment pas négligeable. Il faut savoir que Google et Mozilla, ils ont une relation un peu compliquée, puisque depuis 2006, en gros, Google paye une somme rondelette à Firefox pour que le moteur de recherche par défaut qui soit poussé, ça soit Google. Et du coup, faire tout leur business là-dessus. La valeur de ce contrat, elle est un peu obscure. On n'a pas de chiffre exact, mais on sait que en 2020, l'extension qu'il y avait eu jusqu'en 2023, c'était environ 400 millions de dollars. Donc, c'est quand même du sérieux. Et pour Mozilla, c'est 400 millions de dollars, c'est pas juste très important, c'est pas juste très très important, c'est très 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 important, c'est même vital. Parce que si on lit les derniers rapports de santé de Mozilla, en gros, les revenus qui viennent de ce type de partenariat, représentent 441 millions de dollars sur 496 de générés. Donc bon, je vous laisse faire le calcul, plus de 80%, c'est énorme. Alors les 441, c'est les 400 de Google plus 41 qui viennent d'autres partenariats du même type, comme Yandex Search pour la Russie. Et puis il faut savoir que Google a ce type de contrat aussi avec d'autres browsers comme Safari et Apple. Et alors pourquoi c'est l'angoisse? Parce qu'en 2023, ces 400 millions, là, c'est fini. Donc il va y avoir une renégociation. Et vu que l'usage de Firefox a largement chuté, la revalorisation de ce contrat va forcément être très à la baisse. Et c'est ça qui inquiète énormément les gens chez Firefox, donc chez Mozilla, et puis même de façon plus générale dans le monde de l'open source. Et donc le contrat, encore une fois, c'est des suppositions, mais en gros, il devrait être coupé de moitié. En tout cas, c'est ce qu'on lit de plus en plus chez les prévisions. Et donc, moitié moins de sous, forcément, moins d'innovation, moins d'updates, etc. Donc du coup, c'est pas nouveau. Mozilla est conscient d'avoir ce joug très très fort avec Google. Donc du coup, ils essayent de se diversifier depuis 2019 et puis même encore avant, en offrant tout un tas de services différents. Donc il y a le service Pocket, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est une offre premium qui permet de gérer en gros les articles qu'on lit sur le net avec du offline, etc., qui est payant. Il y a une offre de VPN chez Mozilla, etc. Mais en fait, tout ça correspond à même pas un peu plus de 20 millions de dollars sur 2020, donc ça reste quand même hyper léger pour faire vivre le projet et tout ce qui entoure. Sans compter qu'il y a eu tout un tas de projets qui ont été entamés, qui n'ont pas marché. Et donc, du coup, aujourd'hui, Mozilla se retrouve un peu dos au mur. Et il y a une vraie question qui se pose sur le financement de l'open source et donc le maintien de tout un tas de projets et de produits que vous utilisez quotidiennement dans votre activité DevOps, cloud ou ce que vous voulez. Et donc, du coup, c'est un peu inquiétant pour la suite parce que... J'ai vu que tu allais en parler plus tard, Christophe, mais il y a cette histoire de qu'est-ce qu'on veut comme web pour le futur. Est-ce qu'on veut un web à l'image de Google parce que finalement, vu qu'une bonne partie des infras sont sur les GAFAM et que les browsers, bah, c'est les browsers de Google, bah, est-ce que, encore une fois, on se met pas tout seul dans un coin? C'est un vaste débat. Je voulais savoir, enfin, je voulais vous partager l'info parce que du coup, là, les négociations vont bientôt avoir lieu pour re-signer ce fameux contrat. Et du coup, je voulais savoir ce que vous en pensiez. René, est-ce que déjà tu étais au courant de tout ça et qu'est-ce que tu as comme retour sur ce sujet?
Oui, donc, je suis au courant. Notamment parce que je suis allé au Snow Camp, une conférence là sur Grenoble, et il y a quelqu'un qui s'appelle Noël Massé, si je ne dis pas de bêtises, qui a retracé un petit peu l'histoire des navigateurs et qui a parlé aussi de ce problème-là. Moi, j'ai aussi connu la période où Internet Explorer était hyper majoritaire. Et clairement, avoir une situation monopolistique comme ça, c'est rarement bon pour l'innovation. Ça contrebalance pas aussi les pouvoirs par rapport à ce qui va être mis dans les navigateurs. Donc il y a des discussions autour de certaines choses par rapport à la vie privée et l'utilisation de certains capteurs. Où Google aimerait pousser beaucoup de choses, mais justement, on a quand même Mozilla et Firefox qui disent que c'est pas raisonnable en termes de vie privée. Donc voilà, ça fait quand même une balance, et je pense que c'est très important d'avoir cette balance-là, d'avoir des standards pas de facto, voilà, qui sont discutés. Et malheureusement, j'ai l'impression de revivre un petit peu ce qui s'est passé avec Internet Explorer, avec un acteur ultra majoritaire qui fait un peu la pluie et le beau temps dans cet univers-là. Et je pense que à moyen terme ou long terme, on ne va pas y gagner en fait. Et c'est assez dommage d'en arriver là, quoi. Et par contre, la subvention de Google, à première vue, ce dont parlait la personne lors de la conférence, c'est pas quelque chose qui risque d'être coupé complètement parce qu'il y a aussi un aspect de justement de non-monopole. Donc en gros, quelque part, Google maintient un petit peu sous perfusion Firefox pour pas être taxé d'être l'unique player sur ce marché-là, quoi. Mais voilà, c'est bien triste. En plus, Firefox, moi j'aime bien. Puis on commence à avoir aussi des dérives par rapport à ça, avec certaines applications qui fonctionnent, qui sont plus complètement agnostiques par rapport au navigateur. On revoit des choses qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps avec IE, où voilà, il y a des navigateurs préférés dans certains cas, parce qu'il y a des fonctionnalités qui ne sont pas supportées hors de Google Chrome. Donc voilà, moi je suis vraiment très, très déçu de cet état de fait, mais je vais laisser les autres en parler.
Je peux prendre la parole. Moi je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit. Et comme tu l'as dit, finalement, le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus d'applications qui ne fonctionnent que sur Chrome, notamment beaucoup d'applications de visioconférence, mais aussi beaucoup de sites web. Moi ça m'arrive de plus en plus souvent, même sur des sites officiels, gouvernementaux ou autres, où par exemple je me rends compte que je peux pas remplir un formulaire ou des choses comme ça, et en fait je passe depuis Firefox du moins, et je passe sur Chrome et ça marche. Donc c'est des choses que je vois vraiment de plus en plus, et c'est un problème, mais c'est le serpent qui se mord la queue, parce que forcément les gens vont se dire Firefox ça marche pas, je peux pas faire tourner Meet, je peux pas faire tourner Microsoft Teams ou des choses comme ça, pour citer des outils avec lesquels j'ai eu des problèmes, et donc vont installer Chrome, et après ça se ça continue et ça s'auto-alimente au final. La solution, c'est difficile à dire, hein. Franchement, moi j'utilise Firefox quand je le peux, sur tous mes usages personnels, du moins même mon téléphone, j'utilise Firefox et ça marche globalement bien, même si j'ai toujours Chrome installé à côté au cas où. Mais après, voilà, j'ai pas vraiment de solution, mais en tout cas, je suis vraiment d'accord avec ce que vous avez dit. Donc, Christophe, je sais pas toi ce que t'en penses.
Alors moi, je suis pas un utilisateur de Firefox, je le suis plus. En tout cas, je l'ai utilisé pendant un moment. Moi, j'utilise Chromium. Je sais que dans notre équipe, ils sont plutôt Firefox. Je dois être le dernier réfractaire à utiliser Chromium. Par contre, j'aimerais parler d'un autre sujet qui touche justement à Mozilla. Puisque Mozilla, on sait que Mozilla développe SOAPS, dont j'ai déjà parlé. Et justement, on se posait la question chez l'Hydra de passer à Mozilla SOAPS pour chiffrer nos secrets, puisque nous, on a une petite équipe, donc on chiffre nos secrets dans Git. Et pour l'instant, on le fait avec Ansible Vault, qui nous convient très bien. Et quand on a regardé, en fait, Mozilla SOAPS, on s'est aperçu qu'il n'était pas maintenu depuis avril 2021. Donc ça fait quand même plus d'un an, presque un an. Excusez-moi, presque un an. Il y a même une issue qui demande si le projet est abandonné. Et il y a quelqu'un de chez Mozilla qui a répondu il y a que 15 jours que le projet n'est pas abandonné, mais que pour l'instant, ils ne savaient pas trop encore ce qu'ils allaient en faire. Donc, en dehors de Firefox, il y a tous les outils qui sont développés par Mozilla qui, à mon avis, sont un peu désertés ou donnent des signes de faiblesse, comme tu l'as dit, Erwan, probablement liés au départ. Moi, ça m'inquiète aussi, mais vous l'avez dit, qu'il y a un seul navigateur, enfin un seul, il y en a d'autres, hein, mais qu'il soit hégémonique. Pour information, j'ai fait le calcul sur le montant de subvention par rapport au montant annoncé par Erwan, on est proche des 90%. Donc par contre, pour le coup, moi ça m'interroge en tant qu'entrepreneur sur le fait que 90% de tes ressources soient liées à une seule activité et avec surtout un seul gros fournisseur, qui est Google, qui est ton principal adversaire. Pose quand même des questions là.
Je pense qu'ils ont cherché à essayer de se diversifier, mais ça n'a jamais trop... Ça n'a pas pris, en fait. À un moment, il y a eu Firefox, le téléphone, mais Firefox OS, si je ne dis pas de bêtises, ça n'a pas pris, en fait. Alors que le concept n'était pas mauvais, mais voilà, ça n'a pas fait.
Oui, parce que c'est ça que je voulais rajouter rapidement, c'est qu'effectivement, je pense qu'ils sont conscients, en fait, à partir du moment où Chrome a commencé à arriver et puis à tout déboîter, je pense qu'ils sont pas bêtes, hein, ils ont commencé à réfléchir à comment se diversifier et être moins dépendants de Google, mais en vrai, les initiatives, elles ont pas très très bien marché, donc les deux fours que du coup, en recherchant, j'ai retrouvé, il y a effectivement ce que cite René, donc le Firefox OS pour fun, et il y a surtout un service de partage de fichiers qu'ils avaient mis en place, un truc cloud agnostique, etc., machin. Mais en fait, ils l'ont stoppé assez vite parce que ça avait été il y avait une faille et ça avait été utilisé pour héberger des malwares. Enfin, donc on sent que c'est un peu chaud. Et là, moi, on en est au stade où en fait, Mozilla, ils essayent de faire des partenariats avec Disney pour que dans ta barre de recherche de Firefox, tu puisses faire un truc avec Disney ou je sais pas quoi pour gagner des abonnements à Disney+. On en est là, quoi.
Ben, ça me fait penser à, je sais pas si vous avez connu ça, mais j'imagine que oui, dans certains navigateurs, à un moment donné, il y avait des publicités au début du net, hein, je sais pas si vous vous rappelez, mais ça a été abandonné depuis, mais on avait certains navigateurs qui, pour se financer, présentaient des pubs. Est-ce qu'on va en revenir là pour lutter contre Google, qui lui a un modèle sur la pub, mais en dehors du navigateur, enfin, en dehors du navigateur, c'est vite dit. Je sais pas. Est-ce que finalement notre Internet, c'est un Internet qui va être régi par la publicité? Ça l'est déjà, mais est-ce que c'est ce qu'on veut?
Ouais, c'est un problème, mais c'est difficile parce que la pub, forcément, beaucoup de gens la bloquent ou la bloqueront. Je pense qu'on est beaucoup à le faire. Mais d'un autre côté, en effet, il faut trouver de l'argent, il faut trouver des financements. Et aujourd'hui, des acteurs comme Google sont tellement gros qu'eux peuvent se permettre de même travailler à perte sur un navigateur et surtout, comme vous l'avez dit, de pousser ensuite leur propre projet via le navigateur, notamment des protocoles ou des choses comme ça qui seraient moins respectueux de la vie privée parce qu'ils seraient en situation de monopole. Donc c'est un vrai problème, mais moi, je vois pas trop de solutions simples sur le sujet du mois.
Eh ben, je vous propose qu'on parle de la suite. Et pour la suite, c'est Mathieu qui s'y colle et il va nous parler du Next 40.
Oui, alors je vais vous parler de start-up françaises parce que l'écosystème des start-up en France est en plein boom. Et la French Tech a publié en février un classement qui est publié régulièrement qui s'appelle le Next 40 et il y a également le Next 120. Alors le Next 120, c'est, on va commencer par celui-là, c'est une liste de 120 start-up identifiées comme prometteuses. Donc les critères, c'est surtout la maturité du produit, les levées de fonds et l'hypercroissance de la start-up. Donc vraiment sa progression qui doit être exponentielle en termes de chiffre d'affaires par exemple, ou en nombre de clients. Et donc au sein de ces 120 startups, on en a 40 qui sont resélectionnées pour intégrer donc le Next 40 avec le même genre de critères, mais on va dire un peu plus exigeant, notamment sur les levées de fonds qui doivent être supérieures à 100 millions d'euros au cours des 3 dernières années ou une valuation de supérieure à 1 milliard. Alors je suis personnellement content de voir que les entreprises françaises montent. Et l'espoir de s'imposer au niveau européen voire mondial, parce que finalement aujourd'hui beaucoup de produits qu'on va utiliser, beaucoup de voilà d'entreprises, on va dire de nouvelles générations d'entreprises qui émergent, ça vient beaucoup des US, et c'est bien de voir de toutes sortes de services, on va dire dans la vie quotidienne, qui viennent aussi de France et d'Europe. Mais ces startups doivent maintenant aussi prouver leur viabilité. Parce que contrairement aux entreprises américaines qui sont là depuis longtemps et qui ont un business model qui marche, qui sont parfois en bourse, etc., en France, on est encore dans cette phase de croissance où les entreprises ne sont généralement pas rentables et n'ont pas encore fait, on va dire, d'exit, comme on dit, donc elles ne sont pas en bourse. Et donc, pour l'instant, finalement, tout ça est encore très théorique, même si on a de très très belles entreprises qui continuent de monter et qui ont de plus en plus de clients. Là, finalement, ça va être ces prochaines années pour beaucoup la confirmation qui est attendue. On a eu forcément beaucoup de critiques sur ce classement, et beaucoup de discussions autour, notamment sur sa pertinence et aussi parfois sur le fait que beaucoup de ces startups se basent fortement sur des produits cloud américains. Alors je peux citer par exemple Tariq Krim qui a écrit une newsletter où je suis à laquelle je suis abonné et il a été assez critique sur le sujet, même si je suis pas d'accord avec tout sur cette newsletter. Il y a certaines parties qui me gênent un peu, notamment un chiffre un peu fantaisiste. Avec d'ailleurs, j'en avais discuté avec lui, où il affirme que 30 à 40% du budget de ces startups, donc du budget des levées de fonds, sont utilisés dans le cloud, ce qui serait délirant. Hein. Quand une entreprise lève 400 millions, il n'y a pas 150 millions ou 180 millions qui va partir chez AWS, c'est beaucoup, beaucoup moins. Mais voilà, c'est donc attention avec les chiffres quand même. Et c'est vrai que la majorité de ces startups vont utiliser des services US. Le problème, là aussi, c'est pour moi, c'est le serpent qui se mord la queue. Les manques des acteurs locaux vont que certaines entreprises vont s'en détourner. Et donc à cause de ça, ces acteurs locaux ont du mal à se financer et à se développer, et voilà, on tourne en rond. On peut également citer le problème des coupons pour les startups d'une petite taille, même si finalement dans ce classement-là, on a des startups de grosse taille, et donc ce problème de coupons n'apparaît moins, selon moi. Et par contre, je ne pense pas que ces startups soient blâmées, car des fois, je me demande, pour travailler dans une entreprise de ce classement notamment, est-ce qu'elles auraient autant de succès en partant dès le départ sur un cloud local? Est-ce que ça serait pas un handicap, dans le sens où aujourd'hui les cloud providers locaux, on a des choses qui tournent, mais il y a encore beaucoup beaucoup de choses qui sont manquantes, donc que ce soit au niveau des produits, mais aussi au niveau de la sécurité des certifications, qui fait que sur certains business, on est obligé, à cause des certifications, d'aller sur des clouds américains, ce qui peut sembler étrange, mais c'est comme ça. Et surtout, on parle beaucoup de cloud provider, mais les entreprises aujourd'hui utilisent toute une collection de services et de produits, on va dire, qui ne sont pas forcément liés à Google ou à Amazon ou à Microsoft. On en connaît tous, et pour citer la tech, on peut parler d'Elastic, on peut parler même de PagerDuty, de GitLab, même de Confluent qui maintient Kafka, etc., etc. Toutes ces entreprises sont américaines, donc, et tout cet écosystème est américain. Et là, sur ça, il y a vraiment un manque encore plus criant pour moi en France, au-delà du cloud, de toute cette galaxie de services. On peut aussi se demander finalement si ce classement ne met pas trop l'accent sur la partie financière, levée de fonds, valorisation, etc., par rapport vraiment aux produits, aux innovations délivrées. C'est vrai que pour moi, ce classement manque aussi, malheureusement, de startup tech. C'est un domaine qu'on voit assez peu en France aujourd'hui, comme je l'ai cité précédemment. Dans la tech, dans les produits tech qu'on utilise, c'est encore majoritairement des produits américain. Alors je crois qu'il y a platform.sh par contre dans ce classement, qui est un cloud provider, mais sinon ça manque par rapport à l'écosystème tech américain qui est beaucoup plus dynamique. Donc je vous laisse réagir sur ça. Je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être Christophe, parce que je sais que le sujet t'intéresse beaucoup.
Oui, alors je ne pourrais que trop vous conseiller de vous inscrire en effet à la newsletter de Tariq Rim, et je vais mettre le lien de son site en description parce qu'il a aussi des publications qu'il produit. Alors Platform SH, c'est plus un gestionnaire de passe que d'hébergeur, parce qu'en fait il peut se poser sur des hébergements. Notamment on peut utiliser Platform SH sur OVH comme on peut utiliser Platform SH sur des cloud providers américains. Alors, il y a plein de choses à dire. Moi-même, je suis en train de monter une startup coopérative. Alors, je sais à quel point c'est compliqué de monter une startup. Sauf que je me pose la question de à quel moment tu es une startup et à quel moment tu l'es plus. Parce que quand je vois les noms qui sont dans le Next 40 et le Next 120, je me dis quand même, c'est quand même des grosses boîtes. Il n'y a pas 15 employés là-dedans. Il y en a certaines, il y a plus de 100 employés. Et c'est hyper compliqué de financer les startups. Je vais juste parler du financement des startups parce que aujourd'hui, si tu veux financer une startup, tu es obligé de faire des levées de fonds, tu vas diluer la propriété de ton entreprise, ou alors tu prends des prêts. Et quand on parle de startup tech, comme tu parles Mathieu, on parle de startups qui font de la R&D. Pendant longtemps, nous on a un produit qui, si on fait de la R&D pendant 2 ans, on va faire de la R&D et puis on sera rentable au bout de 3 ans, peut-être 4 ans. On a une bonne vision, mais il y a certaines de ces startups là dont tu parles qui ne seront pas rentables avant 5, 10 ans peut-être. Ça me pose moi une question de est-ce que c'est pertinent d'avoir des entreprises qui ont un seuil de rentabilité aussi loin et d'injecter autant d'argent là-dedans. Moi je me pose des questions. Et l'autre question que je me pose pour me frotter un petit peu aux demandes de subventions financement, c'est l'orientation qui est donnée aujourd'hui par l'État français et la BPI sur certaines startups tech. C'est clairement deep learning et autres, en oubliant toutes les autres startups tech. Typiquement, nous, on fait du B2B, on fait des outils de collaboration pour les entreprises. Bah, on est difficilement éligible à plein de trucs. Bah, je vous fais part de tout ça. Il y a plein de trucs. Je suis désolé, c'était un peu décousu. Donc, je vais laisser la parole à René, s'il veut bien rebondir.
Ouais, je sais pas trop quoi en dire. Je suis un peu moi mon domaine. Effectivement, Tariq Rim, c'est quelqu'un que je suis aussi. Que, enfin, voilà, j'apprécie assez ce qu'il dit. Ouais, le classement sur les levées de fonds, je pense qu'on pourrait aussi peut-être un petit peu. Après, encore une fois, je suis pas un spécialiste, mais. Mais voilà, pondérer ça aussi peut-être par le nombre de clients ou voilà, si avoir une idée un petit peu de la viabilité du business. Ouais, après je trouve ça à la fois bien qu'il y ait des entreprises qui percent entre guillemets et qui voilà, qui se développent, et ça c'est plutôt cool. Donc ouais, je trouve ça quand même malgré tout assez positif. Voilà, je suis un peu sec sur le sujet, donc je vais passer la main à Erwan.
Moi, je vais rebondir sur un des points que tu as cité, Mathieu, que je trouve intéressant. C'est le côté, c'est hébergé, enfin, beaucoup de ces boîtes-là hébergent leurs solutions sur des providers américains ou quoi. Et je suis entièrement d'accord avec toi sur le côté le serpent qui se mord la queue, parce que pour avoir travaillé dans pas mal de boîtes qui sont dans ces classements, c'est exactement ça. Souvent, quand tu et j'ai eu la chance d'être dans des boîtes comme ça au moment où ça montait bien, donc tu vois bien comment les choses évoluent. Et dès que tu commences à, par exemple justement, avoir des besoins d'infra de plus en plus forts ou quoi que ce soit, eh ben t'as AWS et Google qui tapent à ta porte et qui disent ouais, viens chez moi, pendant 2 ans tu payes rien, fais-toi plaisir. Et donc forcément t'as des services managés de bonne qualité, t'as tout un tas de choses qui te plaît, et en plus tu payes pas. Ça te permet d'aller vite. Bon, ben, hop, tu vas dessus. Et, et parce que business first, et du coup c'est de l'argent que tu as, que tu mets pas sur un acteur français ou européen qui parfois peut avoir la même qualité de service ou quoi. Enfin, ça, c'est des choses qui se challenge, et donc du coup, forcément, ça fait aussi moins de choses qui est hébergé donc chez nous, etc. Et du coup, ça me permet de rebondir sur un dernier truc que tu as cité aussi, c'est que sur ce classement, en fait, on se rend compte que il y a des boîtes qui sont françaises, qui sont dans ce classement, qui sont au top niveau technique, mais par contre, en termes justement les acteurs français qui sont purement genre des providers ou quoi que ce soit, je crois qu'il y a OVH dans le classement et effectivement il y avait plateforme message, mais je crois pas que Scaleway soit, par exemple. Donc on sent que la priorité elle est pas trop sur le sujet, et donc du coup ça c'est un peu triste, et donc voilà. Tu voulais dire un truc, Christophe ?
Ouais, je vais rebondir en fait, parce que là, je pense qu'on parle de start-up de la French Tech, et je suis pas sûr que Scaleway fasse partie de la French Tech en fait. C'est aussi ça le truc, c'est que tout l'écosystème qui fait pas partie de la French Tech, je suis assez, j'ai un regard assez critique sur la French Tech, donc je vais le garder pour moi, mais en l'occurrence, je pense que l'explication est là. Je vais rebondir un petit peu sur les cloud providers américains. En effet, même si le chiffre est pas aussi énorme que celui que dit Tariq Krim, moi, il y a un truc qui me perturbe, c'est est-ce que vraiment, on le sait aujourd'hui, l'utilisation du cloud, c'est grosso modo de la VM et puis une faible majorité de service manager. Est-ce que vraiment toutes ces entreprises qui sont là, qui utilisent les cloud providers américains, est-ce qu'elles utilisent toutes à fond les services managés, ou est-ce que elles sont chez eux par convenance parce que c'est les plus grands cloud providers? Est-ce qu'elles ne pourraient pas faire un move et déplacer certaines de leur infrastructure ou une partie de leur infrastructure pour faire du multi-cloud, parce que je pense que on va aller de plus en plus vers le multi-cloud dans les années à venir. Est-ce qu'elles pourraient faire ça pour justement réinjecter du financement en France? Parce que le fait est que quand on est chez ces cloud providers américains, en plus il y a une partie de notre économie monétaire qui s'évade de chez nous et qui va aux États-Unis, et du coup ça finance plus tout ce qu'on veut financer en France, à part la TVA, mais pour le reste, ça part.
Alors je peux répondre.
Laisse la parole à Mathieu, vas-y.
Ouais, alors je pense que c'est difficile déjà parce que, comme je l'ai dit, il y a l'histoire des certifications qui sont souvent manquantes sur des acteurs locaux. Les aspects sécurité également, par exemple, je parle IAM, par exemple, c'est un truc, mon entreprise actuelle ne pourrait pas travailler sans IAM, qui n'est pas présente sur les acteurs locaux. Également, tu disais finalement, les services qui sont utilisés, c'est beaucoup de VM, et en général, moi, au final, aujourd'hui, SSH sur une VM, en fait, c'est assez rare. Parce que, moi je travaille beaucoup avec Kubernetes en off managé, que des services bases de données managées, etc., etc. Plus derrière avec de l'intégration avec, voilà, comme je l'ai dit, de l'IAM, des choses comme ça. Pour moi, il y a aussi ça, il faut aussi prendre l'aspect technique. Et moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que j'adorerais travailler avec des acteurs locaux, pour tous les problèmes qu'on a énoncés, coupons, évasion fiscale, entreprises un peu prédatrices, même des entreprises US, dans d'autres domaines, je parle pas que du cloud, je parle certaines, comme Amazon, par exemple, sur sa marketplace. Donc c'est une entreprise, ou Google avec la vie privée. Mais en effet, malheureusement, aujourd'hui, d'un point de vue technologique, beaucoup de choses sont manquantes. Et moi, personnellement, j'ai été assez déçu par certaines sorties récemment sur des acteurs locaux, ou même sur des choses comme Kubernetes. Avoir du service Kubernetes Prod Ready en France, par exemple, c'est as a service, je veux dire, sur un acteur français, aujourd'hui, c'est pas possible. On a des choses, mais qui pour moi sont pas prod ready, et sur lesquelles on peut pas mettre une startup qui a une valuation de 2 milliards, avec des données sensibles ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment cet aspect-là aussi, c'est l'aspect sécu et exécution du produit.
Ouais, alors je vais préciser quand même, parce que tous les quatre là, on sait qu'on est en avance sur plein de trucs, mais le marché aujourd'hui de la tech en France, déjà, pour une grande partie, n'est pas encore passé au cloud, et ceux qui sont passés au cloud utilisent en grande majorité de la VM, c'est ça que je veux dire. En effet, ton cas et le mien font qu'on n'utilise pas que de la VM. Moi, j'utilise des services managés, mais moins que d'autres. Juste, faut pas oublier que la grande majorité, c'est l'utilisation, c'est de la VM. Et en effet, on est en retard sur plein de sujets. Mais tout le monde ne fait pas du Kubernetes, tu vois. C'est ce que je veux dire, en fait. C'est que les personnes qui font de la VM, et il y en a beaucoup, probablement là-dedans, il y en a beaucoup en France, eh ben, pourquoi est-ce qu'elles n'iraient pas sur des acteurs locaux? Dernière chose, les startups valorisées à 2 milliards, il n'y en a pas beaucoup non plus. Hein. Faut quand même,
C'est vrai. Voilà. Très rapidement, je laisserai la parole aux autres, mais juste une info, c'est que là, on parle d'une externe, donc finalement, c'est des entreprises tech assez avancées en France. Et pour connaître un certain nombre de ces entreprises, avoir passé des entretiens chez un certain nombre également, elles sont toutes sur Cube, par exemple. C'est-à-dire que les acteurs aujourd'hui qui vont faire que de la VM, etc., on en trouve, on va en trouver moins dans cette liste que dans la population générale, on va dire. C'est que là, on est quand même sur des entreprises qui vont avoir des besoins assez avancés et surtout qui scalent très vite. C'est-à-dire quand l'entreprise, quand en gros votre boss vous dit « bon bah on est 500, dans 3 ans on est 2000 », on dit, donc en termes de service manager, il faut que ça suive parce que sinon, bah, c'est juste pas possible. Et c'est ça, c'est accompagner cette croissance, ça demande des besoins très très spécifiques au niveau produit.
Eh ben, apparemment, on va passer à la suite.
Ouais, plus de réaction.
Plus de réaction.
J'espère qu'on n'a pas trop monopolisé la parole.
Non, mais je vais en profiter parce que tu parles d'emploi et tout. Je vois que dans cette liste, il y a YouSign et j'ai interviewé quelqu'un de chez YouSign dont le podcast devrait sortir dans les mois à venir. Donc, ça me permet de vous rappeler qu'il faut vous abonner pour avoir tout ça. Et surtout, je vous rappelle aussi que le podcast, il est en licence libre. Il est en CC BY-SA. Si vous voulez, vous pouvez l'utiliser, le partager, découper des bouts et le mettre dans vos propres podcasts si vous voulez. Il suffit juste de nous citer et de nous créditer.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Pour ça. La news suivante, René va nous parler de quelque chose à la demande, mais pas de cloud à la demande.
Ouais, c'est une info que j'ai captée chez. Je lui fais un petit clin d'œil chez Olivier Poncet au passage, qui nous fait un petit live les lundis, et je vous encourage à regarder parce qu'il est sympa. C'est un tel en fait qui va faire du pay as you go entre guillemets avec un mécanisme qui s'appelle Software Defined Silicon SDSI. Et l'idée en fait c'est d'activer via logiciel des capacités des différents processeurs qui vont produire dans le futur. Donc pour faire ça, ils ont commencé à introduire un certain nombre de mécanismes dans le noyau Linux. Ça devrait arriver dans les versions 5.18. Et donc on va pouvoir acheter ces processeurs entre guillemets bridés logiciellement et ensuite les clients devront passer entre guillemets à la caisse pour débloquer certaines capacités souvent un petit peu avancées ou pour l'industrie. Une gestion de beaucoup de mémoire, il y a pas mal. On mettra le lien entre guillemets, il y a un lien sur développer.com qui explique un petit peu tout ça. Et Et voilà, donc c'est une nouvelle approche. Je ne vais pas dire ce que j'en pense tout de suite, je vais vous laisser un petit peu réagir. Ce que je voulais juste ajouter, c'est que pour moi, ce n'est pas totalement nouveau parce que chez Hewlett-Packard, ça existait déjà en fait avec un. Alors, ce n'était pas tout à fait dans ce sens-là, mais un produit qui s'appelait iCode, qui s'appelait High Capacity on Demand. Et en fait, on livrait des serveurs complètement voilà, remplis de CPU. Et en fait, il y avait des clés logicielles pour ensuite faire du on-demand aussi et utiliser plus ou moins de ces CPU en fonction de ce à quoi le client avait souscrit. Donc l'idée n'est pas complètement nouvelle. Voilà. Et une dernière petite aparté, ça montre aussi quand même, parce que je ne sais pas quelle est la position d'un Linus ou des gens du noyau, mais. Je suis pas sûr qu'il soit forcément à 100% comment dire, en faveur de ce type de choses, mais ça reste quand même, voilà, on peut rentrer enfin, il n'y a pas spécifiquement des jugements entre guillemets, je sais pas comment dire, de valeur, et voilà, les fonctionnalités rentrent dans le noyau à partir du moment où elles sont développées correctement. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est aussi une force. Même si on n'est pas forcément d'accord avec ce avec quoi ça va amener, voilà, c'est possible de faire entrer un certain nombre de choses dans le noyau et il n'y a pas de blocage pour certains acteurs par rapport à d'autres. Et voilà, ben je voulais un petit peu, voilà, je vous laisse un petit peu la main pour voilà, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est plutôt une bonne chose pour vous ou pas, voilà. Je
Ouais,
vous laisse vous
alors
exprimer.
je vais réagir. Je saisis pas bien la différence qu'il y a avec ce qu'on faisait avec de l'overclocking. Pendant longtemps, moi, j'ai overclocké mes processeurs. Et je crois savoir aussi qu'il y a plein de fournisseurs de processeurs ou autres, d'ailleurs d'autres composants, qui fabriquent les composants identiques, mais qui les vendent à différents prix en fonction. Et en fait, c'est juste le logiciel qui fait que. T'achètes un processeur à telle fréquence et à telle fréquence ou à une barrette de RAM, je sais pas. Enfin, je me pose des questions sur ça et je me pose des questions sur est-ce que ça vise plutôt le marché domestique ou le marché du cloud? Ça, c'est des questions que j'ai pas bien saisies.
Alors, je pense que ça vise plutôt le marché entreprise. Après, oui, ce que tu dis par rapport à l'overclocking, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que quand donc il y a les processeurs sont sortis sur les wafers, en fait, ils sont testés et en fait, il y a une classification qui est faite et donc les processeurs qui répondent le mieux aux tests, ben, sont classés pour des utilisations avec des fréquences plus élevées. Et puis, ben, ceux qui ont échoué aux tests sont un petit peu entre guillemets déclassés ou mis dans des classifications un peu plus basses. Et donc l'overclocking, c'est un moyen de ben, essayer de récu enfin de forcer un. On va dire que les tests, voilà, c'est la différence entre parfois certains modèles qui ont été un peu déclassés peuvent quand même fonctionner avec des fréquences plus élevées. Donc ça fonctionne. Là, c'est plutôt par exemple, ben, si mon processeur il a un jeu d'instructions un peu spécifique, là on va m'interdire de l'utiliser. Il est câblé hein, dans le processeur, mais je vais pas pouvoir l'activer tant que j'aurai pas payé pour l'activer. Donc c'est un petit peu différent quand même. C'est vraiment du blocage de fonctionnalités et des verrous logiciels pour activer des fonctionnalités dont on pourrait avoir besoin ou pas.
Et l'autre question que j'ai à te poser, qui a lu l'article, est-ce que tu payes et tu débloques tout à vie, ou est-ce que tu payes et tu débloques ça pour une certaine durée, ce qui permettrait de rentrer dans le modèle de l'abonnement?
Alors, je vais pas répondre parce que je suis pas sûr. Donc, je vais essayer de pas dire de bêtises.
C'est pas grave, c'est pas grave, parce que je me dis qu'avec ce genre de choses, le modèle de l'abonnement risque de faire de émerger. On sait que le modèle de l'abonnement, c'est bien pour une entreprise. Je vais laisser la
Alors,
parole à... Ouais,
c'est
vas-y.
clairement un risque, hein, je pense, d'arriver dans ces modèles-là où tu devras payer des souscriptions annuelles, etc., ou pour garder ta fonctionnalité. Enfin, tout va dépendre un petit peu de comment ça va être vendu et marketé, je pense.
Allez, Erwan, dis-nous ce que t'en penses.
En fait, je connaissais pas, enfin, j'étais passé totalement à côté de ce truc-là. Et effectivement, moi, j'ai l'impression que ça rajoute comment ça s'appelle, une contrainte assez forte. Et effectivement, ce que tu évoquais avec le système d'abonnement, moi, c'est le premier truc qui me venait en tête où je me disais, oh putain, merde, tu vas finir avec 12 000 trucs. 12 000 subscriptions pour pouvoir profiter de tout. Enfin, moi, c'est le premier truc qui me venait en tête à l'écoute de la news. Mais j'ai pas plus de rebond que ça à faire. Mathieu, si tu as quelque chose à
Alors, peut-être une chose, c'est que c'est vrai que moi au début, j'avais pas compris la news comme ça. C'est vrai que je trouve ça un peu dérangeant si le code est déjà là et qu'on doit juste payer pour l'activer. Moi, j'avais plus pensé à un système où en fait, bah voilà, on a le processeur avec son jeu d'instruction, etc. Et puis Intel apporte de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, un an après, et au lieu de changer mon hardware, et eh ben j'achète un petit upgrade qui me permet de bénéficier de certaines choses, qui éviterait peut-être également de changer trop rapidement son hardware en faisant évoluer via du logiciel. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas parce que si en effet le code est déjà là, ça perd son intérêt. Mais j'aurais peut-être, j'y connais rien du tout en hardware, mais j'aurais peut-être vu l'intérêt si c'était plus quelque chose, voilà, où je peux patcher mon processeur et comme ça, ben je lui rajoute une durée de vie parce que je peux le faire évoluer sur mon processeur selon ses besoins.
Ah, en fait, alors après, j'ai peut-être pu mal comprendre aussi, mais enfin moi, un des aspects peut-être positifs, ça aurait été peut-être un aspect justement à produire peut-être moins de gamme de processeurs et donc peut-être un petit peu rationaliser et on va dire voilà éviter de se retrouver avec des gammes de processeurs invendues ou des choses comme ça. Et donc peut-être une vue un peu écologique du truc, mais je doute que ce soit l'objectif en fait. Je pense, enfin moi je le comprends vraiment comme voilà, un nouveau business model où voilà, t'as besoin de gérer, je sais pas, plusieurs téras de mémoire. Bah tu peux pas le faire si t'as pas la features dans ton serveur. Et si tu veux gérer cette grosse capacité de mémoire, bah, va falloir que tu payes une clé logicielle pour pouvoir le faire.
Ouais, là, c'est assez pénible.
Ouais, il y a quand même, enfin, j'ai parcouru vite fait l'article que tu citais, et il y a quand même comme, enfin, on évoque quand même ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que en gros, on fournit un truc un peu random et qui reçoit des updates après coup que tu débloques que si tu as besoin, et donc du coup, ça rentre dans la logique que tu viens de décrire, René, quoi. Donc, on peut espérer que ça aille dans ce sens-là.
Alors justement, je voulais réagir parce que c'est, je crois, ce que fait Tesla, qui vend des voitures totalement avec tout le hardware et tu peux activer certaines fonctionnalités, notamment je crois qu'ils vendent leur voiture sans le pilote autonome. Et si tu veux, tu peux acheter le pilote autonome pour une certaine somme. Et hop, il y a une mise à jour logicielle qui est faite sur ta voiture et hop, tu as ton pilote autonome alors que tout le hardware est déjà là. Moi, à titre personnel, si ça permet en effet d'éviter de renouveler le hardware trop régulièrement, et puis bah ça fait rentrer des sous dans les caisses de Intel pour lui permettre de vivre, même si je pense que Intel n'a pas forcément besoin que de ça. Moi, je suis plutôt pour qu'il y ait moins de fabrication et qu'on ait des processeurs peut-être plus durables dans le temps. Moi, ça, je pense que ce serait une bonne chose.
Ouais, après, ouais, voilà, moi je suis. Ouais, je pense pas que c'est la volonté derrière, mais je pense que c'est un peu. Voilà, ça c'est peut-être un peu naïf. Je pense que c'est
Mais ça
vraiment
peut être un espoir.
du mar. Ouais, voilà, mais je doute. Mais voilà, je pense que c'est plus du marketing et voilà, essayer de faire capter des clients et de les rendre captifs en fait.
Eh ben, l'avenir nous le dira. Et du coup, ben on va passer à ma news. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on va parler encore une fois d'Internet. Et notamment, c'est dans un communiqué de la CNIL du 10 février 2022 que l'on apprend la nouvelle. Cette nouvelle, elle doit faire trembler tous les départements marketing en ce moment. La CNIL a mis en demeure un gestionnaire de site web de ne plus utiliser Google Analytics. Alors, pour ceux du fond qui dorment près du radiateur, Google Analytics, c'est quoi? C'est un outil qui permet de collecter et d'analyser des statistiques de visite d'un site internet. Donc il y a un identifiant unique qui est attribué à chaque visiteur, et cet identifiant, qui est assimilée par la CNIL à une donnée personnelle, et les données qui lui sont associées sont transférées par Google aux États-Unis. La CNIL a été saisie de plusieurs plaintes par l'association Niobe concernant le transfert vers les États-Unis de données collectées lors des visites de ces sites Internet qui utilisent Google Analytics. Mais avant de continuer, je dois vous parler de Niobe, je ne sais pas comment ça se prononce, dont j'ai appris l'existence en préparant cette news. Alors, N-O-Y-B, c'est l'acronyme de None of Your Business, qui est une ONG autrichienne qui a été fondée en 2017, entre autres par l'avocat autrichien et militant de la protection des données de la vie privée, Max Schrems. Ce nom, il doit vous dire quelque chose, mais on en parle après. Elle vise en fait à lancer des actions en justice et médiatiques sur la base de la réglementation du règlement général de la protection des données. Sa mission, c'est faire respecter notre droit à la vie privée au quotidien, et son slogan, c'est « Ma vie privée ne vous regarde pas ». Bon, revenons-en à la plainte de la CNIL. C'est en effet un total de 101 réclamations qui ont été déposées dans les 27 États membres de l'Union européenne, plus les 3 autres États de l'espace économique européen, qui vont à l'encontre de 101 responsables de traitement qui transféraient des données personnelles vers les USA. L'idée, c'est de tirer avantage des conséquences de l'arrêt Schrems 2, je vous en parlais tout à l'heure, de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 juillet 2020, qui avait invalidé le Privacy Shield. Je vous en parlais déjà dans une trouvaille du vendredi à l'époque. Cette cour avait mis en avant le risque que les services de renseignement américains accèdent aux données personnelles transférées aux États-Unis. La CNIL constate que les données des internautes sont ainsi transférées vers les États-Unis en violation de l'article 44 et suivant du RGPD. Le gestionnaire de ce site avait un mois pour se mettre en conformité. Au moment où vous écoutez ce podcast, on verra s'il l'a fait ou pas. On ne sait pas qui il est d'ailleurs, ce site internet, la CNIL ne nous le dit pas. Par contre, il y a d'autres procédures de mise en demeure qui ont été engagées par la CNIL à l'encontre d'autres sites internet qui utilisent Google Analytics. Je vais aussi vous parler d'un truc que j'ai juste appris au moment même où on lançait cet épisode. Il y a eu une décision du tribunal de Munich le 20 janvier 2022 qui condamnait justement l'utilisation de Google Fonts sur un site web, et notamment les CDN qui sont associés à Google Fonts. Ce tribunal-là de Munich, il considérait que l'appel justement au CDN de Google Fonts équivaut à la perte de contrôle du demandeur sur données personnelles, puisque les CDN ils récupèrent des données au passage. En l'occurrence, l'IP de l'utilisateur. Donc pour moi, c'est clairement un pas en avant qui est fait vers notre souveraineté numérique de manière globale en Europe. Alors, outre l'utilisation de Google Analytics, moi j'aimerais qu'on ouvre un peu le débat et qu'on fasse un peu de prospective vis-à-vis de l'utilisation des fournisseurs cloud américains, parce que si on part de ce principe-là, si on met justement en doute l'utilisation de Google Analytics et des CDN de Google Fonts, il n'y a qu'un pas pour parler des fournisseurs cloud américains dont on parlait juste avant.
Alors, je vais commencer. Alors, moi, pareil, cette décision, je la trouve très intéressante. Et parce que Google Analytics, comme beaucoup finalement d'outils venant des réseaux sociaux américains ou de choses comme ça, ça peut être les intégrations Twitter ou Facebook, etc., qui sont sur les sites web, font du tracking. Et c'est un vrai problème pour la vie privée parce que finalement, plus le nombre de sites utilisant Google Analytics augmente, plus Google est capable de vous tracer finalement sur l'ensemble du web. En fait, parce que c'est ça le but avec finalement avec votre IP et etc. Vous pouvez même en navigation privée, etc. Google sait entre guillemets qui vous êtes. Donc cet arrêté, il est bien. Après, bon, à voir si ça va se traduire par des faits, on va dire, de manière plus globale. C'est pas juste un cas unique. Et puis après, voilà, la CNIL va abandonner les choses et tout le monde va continuer d'utiliser Google Analytics. Je sais pas. Et sur la partie cloud, on en avait parlé un peu plus tôt. Moi, clairement, j'aimerais bien pouvoir utiliser des acteurs locaux. Pour le cas de Google Analytics, pour le coup, il y a des alternatives qui sont intéressantes. On pourra en parler tout à l'heure. Mais si on élargit, moi, je pense toujours une chose, c'est que, bien sûr, c'est bien de faire ce genre de démarche, de réglementer. Moi, je suis totalement pour au niveau de l'Europe, pas qu'au niveau de la France, bien sûr, mais au niveau de l'Europe, et, pour avoir une plus grosse force de frappe. Par contre, je pense que les entreprises commenceront... Il n'y a qu'une seule chose, on va dire, qui sauvera les acteurs locaux, c'est l'excellence technique. Sans excellence technique, au niveau des produits, on continuera d'utiliser des services US, et ça, c'est quelque chose qu'on oublie aussi. Et moi, c'est ça que j'attends aujourd'hui, c'est de l'excellence technique sur les produits. voilà, bah, j'ai tué l'ambiance.
Je vais réagir si René ou Erwan ne veulent pas réagir. Alors, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, il y a deux sujets. Il y a l'excellence technique d'une part. Tu t'es exprimé sur ce point, je suis assez d'accord avec toi. Par contre, pour moi, il y a un vrai problème légal. Moi, quand je parle de souveraineté numérique, je fais appel au côté législatif. Il y en a beaucoup qui, quand ils parlent de souveraineté numérique, entendent autonomie numérique. Mais moi, c'est le côté législatif qui m'intéresse. Et aujourd'hui, législativement parlant, utiliser des clouds américains, c'est incompatible avec l'RGPD. C'est ma position. C'est la position qui tend à se dessiner vis-à-vis de NACLIL et des acteurs européens. Ma question, moi, c'est... Alors, il y a deux pouvoirs qu'on peut activer. Le premier, c'est le pouvoir législatif au niveau européen ou français. Dire, maintenant Google, ça suffit, maintenant Amazon, ça suffit. Chez nous, nos lois. C'est à Rome, tu fais comme chez les Romains à Rome, je ne sais plus quel est exactement le... Bref, l'idée, c'est ça. La deuxième idée, c'est, et les clients de ces fournisseurs-là, est-ce qu'ils ne peuvent pas taper du poing sur la table et dire, oh, les cocos, nous, on est des clients français, on est des clients italiens, on est des clients espagnols, on veut que ce soit nos lois qui soient appliquées avec vos services. Donc, vous faites comme vous voulez, mais pour qu'on continue à utiliser vos services, vous allez voir l'État américain, vous leur dites que chez nous, c'est les lois de vos clients qui s'appliquent. C'est aussi quelque chose qui peut être utilisé, parce qu'en effet, comme tu le dis, l'excellence technique, elle est là, et il y en a certains qui veulent continuer à utiliser les services américains, et par contre, pourquoi est-ce qu'on n'applique pas nos lois sur notre cyberespace? Ça, c'est mon point de vue. René, tu voulais réagir, justement.
C'est effectivement un peu la même problématique que sur le cloud. C'est vrai que ces solutions-là, telles que Google Analytics, elles sont hyper faciles à mettre en œuvre, ça marche très bien. Je suis loin d'être un spécialiste du domaine, mais j'imagine que ce qui est remonté permet de faire des analyses fines de ce qui se passe, etc. Donc c'est un très bon outil. Là, comme l'a dit Mathieu, il y a effectivement une alternative et en plus libre qui existe, qui est peut-être pas au même niveau, mais suffisamment crédible, je pense. Donc c'est plutôt bien et ça permet une voie un peu alternative. Après, dans le cas effectivement des fournisseurs de cloud, c'est plus compliqué. Après, quand on dit excellence technique, je pense, c'est vrai, mais il y a aussi quand même, comme tu le rappelais tout à l'heure, il y a quand même une majorité d'acteurs qui... Enfin, ce qui se vend le plus chez Amazon, c'est la VM et S3. Peut-être pas tout le monde a les besoins de hyper pointu et je pense qu'il y a une alternative possible pour certains acteurs, effectivement pas pour tous. Après, c'est vrai que c'est difficile des fois de se dire, je choisis cet acteur-là qui a peut-être une solution moins bonne techniquement, mais pour privilégier d'autres aspects. Voilà, moi, c'est un ensemble de choses. C'est vrai que c'est une question très, très difficile et complexe.
Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais effectivement, on a cité les solutions pour pallier donc, à Google Analytics avec du self-hosted ou même avec des alternatives. Il y a des services français qui marchent bien, qui fournissent la même chose. Après, moi, je ne suis pas un expert non plus, mais j'imagine que les gens sont habitués à Google Analytics ou des trucs comme ça, et c'est plus ça qui est dur à combattre finalement que plus la qualité du service, j'imagine. Mais moi, j'imaginais un peu le truc aussi, alors je suis peut-être optimiste, mais comme le décrivait Christophe, c'est-à-dire qu'avec ce genre d'acte fort, enfin en tout cas de volonté forte, que ça peut... aider à ce que les éditeurs se plient en fait aux contraintes de là où ils diffusent leurs services, donc comme en Europe par exemple. Mais par contre, le truc que j'ai pas bien suivi, c'est à quel point cette histoire de Google Analytics devient entre guillemets interdit. Il y a des contraintes de temps qui ont déjà été annoncées ou pas du tout. Parce que moi, je sais que dans ma boîte, ils parlent de SAD, par exemple. Donc, on a plus d'infos là-dessus. J'avoue que j'ai suivi ça de loin.
Bah, a priori, là, la personne qui a reçu la mise en demeure avait un mois pour se mettre en conformité. La CNIL va étudier d'autres sites, mais si tu n'as pas encore reçu une mise en demeure, pour l'instant, tu es tranquille. Mais il y a de fortes chances pour que ça devienne plus tard une décision de justice qui fasse après jurisprudence. Donc nous, typiquement, je sais qu'on utilise encore Google Analytics sur notre site internet. On utilise avec une autre solution dont je vais parler juste après. Et dans le trimestre ou dans le semestre, on va enlever Google Analytics. On est déjà en train d'enlever tous les fonts Google Cloud de partout. Et c'est pas mal parce que finalement c'est pas forcément nécessaire. Et puis je m'aperçois que j'y vais pas tant que ça, voir les stats de Google Analytics, mais ça c'est un autre sujet.
Oui, et très rapidement sur l'aspect légal, c'est vrai que c'est bien de voir, comme je le disais, je suis d'accord avec vous hein, sur le genre d'initiative, mais après, les acteurs locaux, il y en a certains qui demandent, des entreprises françaises par exemple ou européennes qui demandent à ce que les cloud providers américains respectent plus la vie privée. Ça donne quoi aujourd'hui? Ça donne plus des offres comme Bleu ou des choses comme ça, donc le cloud souverain hébergé, enfin du cloud hébergé sur l'infrastructure OVH ou Orange ou Thales, qui est en train de se mettre en place. C'est pas une solution, mais ça c'est un autre débat. Mais pour moi c'est pas une très très bonne idée. Et pour moi c'est vraiment aussi le fait que si du jour au lendemain on dit ok, ou même dans 6 mois on peut plus utiliser les clouds américains, le problème c'est que comme j'ai dit, il y a des entreprises qui en ont besoin et derrière on va vraiment perdre en compétitivité aussi. C'est-à-dire que une entreprise qui travaille très rapidement grâce à un cloud américain va travailler moins vite et va se faire en fait manger par les entreprises américaines. C'est-à-dire qu'on va tuer nous-mêmes notre écosystème tech parce que on va décélérer là où de l'autre côté de l'Atlantique, on est plus dans l'accélération, notamment grâce au cloud. Et c'est ça aussi, le cloud, c'est vraiment un porteur de, on va dire un accélérateur de start-up pour moi, c'est vraiment, même pas que de start-up, hein, d'entreprise en général. Et si on commence à mettre des limitations à ça, moi j'ai peur que ça fasse le double effet de est-ce que ça apportera du business peut-être local, mais est-ce qu'on va pas aussi tuer beaucoup d'entreprises qui vont se faire dépasser à cause de ces limitations? C'est exactement le débat qu'on avait eu il y a quelques podcasts avec les certifications et les normes HDS, Second Cloud, etc., où elles sont tellement contraignantes que nos acteurs locaux peuvent pas les implémenter. Enfin, voilà, c'est un peu ça, c'est rajouter des lois qui nous pénaliseraient au final.
Alors, c'est un peu, en effet, c'est une crainte qui peut être fondée. Moi, je n'en suis pas certain, je ne suis pas aussi négatif que ça. Je pense déjà que si les entreprises doivent migrer, elles le feront. L'injection de capitaux va faire que les acteurs locaux vont prendre en puissance. Mais il y a aussi un truc, tu parles de se faire doubler par les autres, mais se faire doubler par les autres, c'est qui? C'est des acteurs américains qui, du coup, seront tout aussi incompatibles avec l'RGPD. Donc, du coup, ces acteurs américains, ces sites américains-là seront peut-être de fait interdits en Europe. En fait, pour moi, la vraie solution de sortie, ce serait que l'Europe ou les États européens tapent du poing sur la table, aillent voir les États-Unis, leur disent « Oh, votre Cloud Act, là, on en a marre, vous arrêtez. Vos lois extraterritoriales, on en a marre, vous arrêtez. Maintenant, vous voulez appliquer vos lois, ok, mais sur votre territoire, sur les territoires des autres pays, c'est les lois du pays qui s'appliquent. Et là, on n'aura plus de problèmes législatifs et tout le monde pourra utiliser Amazon Web Services s'il le veut, tout en étant conforme à la RGPD. » Moi, c'est mon point de vue, hein. C'est qu'à un moment donné, il faut quand même montrer aux Américains que on est là, qu'on est, le territoire européen est un territoire pour ces grands Américains. C'est un marché important. Et si on veut à un moment donné arrêter de se faire marcher sur les pieds, c'est à nous aussi de le faire, de se lever et puis de dire, ok, ça suffit, maintenant la récré elle est finie.
Je suis d'accord, mais ça doit servir donc, comme tu l'as dit, au niveau global, et pas juste on interdit un truc et on laisse open bar le reste.
Je vais lancer un troll, justement. C'est, on n'est pas à l'abri de faire comme en Chine, où finalement, ils ont, avec Alibaba. Alors, moi, je ne connais pas bien le service, mais c'est, on retrouve des plateformes assez modernes en termes techniques. Et justement, ça a été poussé parce que ça a interdit tout hébergement ailleurs. Quoi. Bon, c'était un troll, bien entendu. Mais.
Non, mais de manière globale, quand tu fermes quelque chose, les acteurs locaux, évidemment, ont de l'espace, et du coup, ont de l'espace pour innover et des capitaux pour innover. Donc, alors, en effet, à un moment donné, il va y avoir un ralentissement, mais bah, si c'est là où on veut aller, pourquoi pas. Et bien, je vous propose justement qu'on passe à la section des outils que tout le monde attend. Et avec cette transition parfaite où je vais vous parler de deux outils de statistiques. Puisqu'on n'a pas fait de name dropping, on a été sage, parce que tout le monde savait ici que j'allais parler de Matomo. Donc Matomo, c'est une solution qui est très très proche de Google Analytics, que vous pouvez héberger sur vos serveurs, et vous pouvez justement capter tout un tas de données, y compris des données un peu sensibles. Mais si vous mettez en place un bandeau RGPD, il n'y a pas de problème. Vous savez, le fameux bandeau cookie, etc. Mais comme c'est hébergé chez vous, bah, du coup, c'est nickel. Et je voulais parler d'une autre solution que j'ai découvert un peu plus récemment qui s'appelle Plausible. Toutes les deux sont open source. Plausible aussi, c'est une solution européenne qui est hébergée en Europe, puisque c'est hébergé chez Etzner, qui est un cloud provider allemand. Et Plausible, c'est pareil, vous pouvez l'installer sur vos serveurs et vous pouvez capter des visites comme ça. Et par contre, Plausible, l'intérêt, c'est que c'est orienté privé, c'est-à-dire que vraiment il n'y a pas de données privées qui sont captées, et l'idée c'est aussi d'avoir des statistiques plus simples, et moi ça me plaît beaucoup parce que c'est vrai que j'ai pas besoin d'énormément de statistiques, et du coup Plausible me paraît intéressant, et vous pouvez, si vous n'avez pas envie de monter votre propre serveur, bah, utiliser l'agent Plausible et héberger vos données chez Plausible.io sans aucun problème puisque c'est hébergé en Europe. Et du coup, René va nous parler d'un autre petit outil.
Ah bah ça faisait longtemps, un petit outil écrit en Rust, qui s'appelle, alors en ce moment je brasse pas mal de, enfin voilà, j'ai besoin d'un petit peu regarder des fichiers JSON, et du coup bah, c'est un petit outil qui s'appelle JLS, pour JSON Viewer. Enfin, c'est un JSON Viewer, ça permet de, voilà, de, avec un petit peu la même interface que LESS, donc c'est assez sympa, ça permet de replier en fait des nœuds ou de les déplier, de faire des recherches dedans, tout ça en ligne de commande. Du coup, c'est un outil qui est, voilà, que j'ai trouvé assez sympa et qui m'est assez utile en ce moment et que je voulais partager. Je ne sais pas si vous connaissez.
Mais moi je connais pas, mais par rapport à JQ, c'est juste que tu vois le truc comme LESS en fait.
Ouais, t'as un côté un peu interactif en fait. C'est-à-dire que tu peux par exemple faire slash et chercher la clé de que tu cherches ou la valeur, voilà. Donc ça permet, c'est assez, ça évite de l'ouvrir des fois dans un navigateur pour faire un petit peu la même chose ou replier les nœuds. Voilà, ça gagne en clarté, quoi.
Je connaissais pas non plus, c'est intéressant, je regarde le site là, le fait de pouvoir replier, déplier, etc. du contenu. D'ailleurs, juste en passant, si il y a une fonctionnalité de LESS qui s'appelle LESS Pipe, qui permet d'étendre LESS, notamment pour ce genre de choses. C'est, voilà, je le dis en passant, mais si un jour vous avez besoin, par exemple, d'ajouter de la coloration syntaxique, du formatting, etc. à LESS, ça peut se faire tout seul via une intégration dans LESS. Vous pouvez regarder LESS Pipe sur Google, c'est assez intéressant.
Alors je le note, je mettrai le lien en description. Moi je vais vous parler d'un autre petit outil pour ceux qui connaissent ZSH. Vous savez qu'on peut ajouter des thèmes. Et ben, je vais vous parler de Power Level Dika, qui est un thème qui est assez flexible et qui permet d'améliorer encore la productivité. Moi c'est pas le thème que j'utilise, mais je vais y passer. Et du coup j'ai découvert ce mois-ci, enfin le mois dernier du coup. Donc je vous encourage à vous pencher dessus, surtout qu'il est ultra configurable. Je ne sais pas si vous êtes utilisateur de ZSH et de leur thème.
Nope. Moi je suis sur Mac maintenant, donc j'utilise ZSH. mais enfin voilà, pour le pro, pour le perso, je suis toujours chez Linux. Mais en, je regarderai en effet, parce que pour l'instant j'ai pas de thème vraiment. Enfin voilà, c'est un truc tout basique. C'est voilà, c'est un peu tout pourri ce que j'ai. Voilà, c'est juste des messages de base. Donc ça m'intéresse beaucoup.
Non, moi je suis pas utilisateur de ZSH, je reste sur le traditionnel bash.
Bien, je t'encourage à te pencher dessus. À vous deux, je vous encourage à vous pencher dessus. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus un jour. Erwan, tu vas nous parler d'un outil que j'aime beaucoup.
René, tu voulais rajouter un truc ?
Non, non, je voulais dire que ZSH c'était un excellent shell. Il n'y a pas photo là-dessus, hein, mais voilà. Après, il diffère un petit peu de Bash et parfois c'est. Enfin, voilà. Dans mon cas, je préfère rester sur le truc un peu plus standard, si on peut dire.
Moi, je voulais vous parler d'un truc. Alors. Je triche un peu parce que je sais que c'est l'un de vous, au sens large, un des podcasteurs qui a tweeté ça il n'y a pas très longtemps. Et je suis tombé dessus et j'ai trouvé ça hyper, hyper intéressant. Mais je n'ai pas retrouvé qui avait tweeté ça. L'outil Uptime, alors je ne sais pas si on dit Kuma ou Kuma, qui est en fait une sorte de Pingdom statue cake self-hosté. Et donc du coup, avec tous les sujets qu'on a abordés sur héberger soi-même certains trucs, etc. Voilà, ça a du sens. Et alors, je suis tombé dessus donc la semaine dernière via le tweet d'un de vous. Et franchement, c'est hyper propre, c'est bien fait, ça marche bien. Je n'utilise pas ça en prod encore, mais je pense que c'est toujours le genre de petit outil qui peut être intéressant, suivant les contextes dans lesquels vous vous trouvez, qui peut être intéressant à avoir. Ça fait plein de choses avec les pages de statut, les machins, les rapports, les alertes, où vous voulez, etc. Et tout ça pour vraiment très, très rapidement. Donc, jetez-y un œil et puis j'en profite pour placer le fait que tout le monde a un Twitter ici, donc suivez les gens du podcast, il y a toujours des choses intéressantes à lire.
Ouais, Uptime Kuma, c'est très très bien, et en plus ça a démarré l'an dernier, je crois en 2021, le développement. Moi, il me manque une seule chose pour en faire un vrai outil de prod, c'est la partie communication sur les incidents. Ça fait une bonne page de statut, mais à part ça, il n'y a pas la communication sur les incidents. Je trouve que c'est encore ce qui manque, mais je pense que ça viendra. Par contre, nous, on envisage de l'utiliser pour faire des pages de statut de nos environnements hors production, juste pour nous. Si vous ne voulez pas réagir, on va passer au dernier petit outil de René.
Pas forcément un outil en tant que tel. Donc en fait c'est juste j'avais parlé il n'y a pas longtemps de Croaky, qui est un outil qui permettait de faire une API un peu vers des outils pour faire des schémas en les décrire à partir de format texte, et apparemment c'est arrivé dans GitHub. Donc il y a depuis peu on peut voilà décrire avec un fichier texte dans les fichiers MD, je pense. On peut décrire en fait un diagramme de séquence, un certain nombre de diagrammes, et du coup GitHub va les rendre sous forme graphique quand on va consulter les pages. Et du coup ça c'est voilà, je trouvais que c'était une bonne évolution pour la documentation dans GitHub, et puis je sais pas si on va avoir l'équivalent chez GitLab ou si ça existe peut-être déjà, mais voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors c'est sympa. Pour GitLab, il faut savoir que tu parlais Croaky, et Croaky est intégré dans GitLab aujourd'hui, donc
d'accord.
Tu peux faire tous les formats supportés par GitLab dans Croaky, que ce soit sur la version Croaky Cloud ou la version Croaky, Croaky peut s'héberger en interne également. Mais oui, c'est sympa en tout cas d'avoir ça dans GitHub, même si c'est limité pour l'instant à Mermaid, si j'ai bien compris.
Ouais, c'est ça. Ça s'appuie sur l'outil Mermaid qui permet de... qui est écrit en JS, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui permet de faire le rendu d'un certain nombre de types de schémas, diagrammes de séquence, graphes, etc., etc.
Ah, moi, je trouve ça vraiment trop cool que ça soit intégré. J'avais pas vu l'info, donc merci.
Ouais, du coup, pour GitLab, je précise aussi qu'en plus de croquis, tu as Plante UML qui est intégré aussi, qui permet de faire des schémas UML et ce genre de choses.
D'accord. Donc ça existait, ouais, déjà, tu vois, j'étais pas sûr.
Eh ben, merci à vous trois. On arrive vers la fin de cette émission. Du coup, si l'émission t'a plu, cher compagnon, tu peux venir en discuter avec nous sur la communauté des compagnons du DevOps. C'est un forum où on discute. On est tous les quatre sur le forum et tous les autres podcasteurs et plein d'autres parce qu'on est déjà plus de 1000 maintenant. Et bien justement, le lien pour t'inscrire est en description. Et très récemment, on m'a demandé si je faisais des partenariats. Alors là, pour le coup, c'est vraiment pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. On est ouvert au partenariat. Du coup, il faut par contre que la thématique, elle colle avec la chaîne, que ce soit la chaîne YouTube ou le podcast. Si donc vous êtes une société et que ça vous intéresse, contactez-moi sur Twitter, sur le forum, sur LinkedIn. Enfin, vous trouverez forcément un moyen de me contacter. Et c'est ouvert et on en discutera. Et je vous remercie encore une fois tous les trois, c'était super intéressant. On a encore dépassé l'heure, je crois que nos podcasts ils deviennent de plus en plus longs. On va bientôt faire concurrence à Messages à caractère informatique qui dure très très longtemps aussi, je crois. Je vais vous laisser à tous les trois le mot de la fin. Et pour ne pas surprendre Mathieu, on va commencer par René.
Et du coup, c'est moi qui te surprends, bravo. Habitude, je suis toujours le dernier à cause de là. Ben, je vais faire du coup dans le classique. Hein, inviter les auditeurs à nous rejoindre aussi sur le forum pour des fois nous faire des retours sur notre podcast. Et voilà, si on a pu dire des bêtises aussi, c'est intéressant de le savoir. Et espérer que cet épisode vous aura intéressé. Et à bientôt.
Et du coup, Erwan, quel est ton mot de la fin ?
Ce sera trombone. Enfin, je ne sais pas si on le voit bien. Et non, toujours cool. J'ai appris plein de choses. Donc, c'est vraiment cool d'échanger avec vous. Continuons ainsi.
Je pense qu'on va continuer longtemps encore. Et Mathieu, du coup, tu n'es pas surpris. Tu as préparé ton mot de la fin, n'est-ce pas ?
Ouais. Je suis content qu'on ait pu parler aujourd'hui vraiment du cloud, qui est un domaine que j'adore. Et qui est très complexe parce que ça mêle en effet légal et technique. Et il n'y a pas de solution simple, mais c'est vraiment cool de pouvoir discuter de ça. Et comme l'a dit René, si vous voulez discuter de tous ces sujets, n'hésitez pas à venir sur le forum, et, ou même sur Twitter ou autre, hein, sur d'autres plateformes, pour parler avec nous.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.